Nous sommes le mardi 6 février 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. Au Sénégal, le Parlement adopte le projet de loi pour un report de la présidentielle au 15 décembre prochain. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye appelle à la fin des ingérences dans ce pays. En Italie, enquête et polémique après le suicide dans un centre de rétention d'un jeune demandeur d'asile guinéen. Le chef de l'ONU nomme un comité indépendant pour évaluer l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Nous ouvrons le programme avec du football. Les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations vont se jouer demain, comme nous le détaille dans le journal de la CAN. Yacouba Bouderargo, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire.
Bonjour à tous. Deux grosses affiches au programme. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, fait face à la République démocratique du Congo au stade Alassane Ouattara d'Ebempé. Et l'Afrique du Sud va défier le Nigeria au stade de la paix de Boaké. Une rencontre que les Super Eagles pourraient disputer sans leur attaquant vedette, Victor Osimhen, incertain, selon l'annonce faite hier soir par un porte-parole de l'équipe nigériane dans un communiqué qui précise que l'attaquant du Napoli souffre d'une gêne à l'abdomen. Il ne s'est pas envolé avec le reste de l'équipe pour Boaké où le match aura lieu mercredi à 17h temps universel. Osimhen a été touché à plusieurs reprises lors des duels musclés contre l'Angola en quart de finale vendredi avant d'être remplacé en fin de match. En attendant ces rencontres alléchantes des demi-finales, la commission technique de la CAF, composée de légendes du football, d'entraîneurs renommés et d'autres experts, ont rencontré la presse au Palais de la Culture de Trècheville. Au menu, des échanges techniques sur cette 34e édition qui tient toutes ses promesses jusqu'ici. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, selon Jamal Fati, ancien international marocain.
Au stade des quarts de finale, les 8 équipes qui étaient l'édition passée ne sont plus là. Ça prouve qu'il n'y a plus de suprématie des équipes qui ont l'expérience des coupes africaines. Il y a aussi la provenance des joueurs qui ont participé et qui participent encore à cette CAN. Il y a un pourcentage de ceux qui évoluent en Europe. Nous avons 60% sur les 629. En Afrique, nous avons 26%. En Asie, 12%. Et en Amérique latine, en Amérique et en Océanie, c'est 1%.
Jamal Fati, ancien international marocain, pour Clémentine Touré. Entraîneur de l'équipe nationale féminine de la Côte d'Ivoire, les équipes sont de mieux en mieux organisées.
Ces équipes sont organisées selon des systèmes de jeu qu'ils ont pu mettre en place. Au niveau des blocs, nous avons pu constater les trois différents blocs, que ce soit le bloc haut, le bloc médian ou le bloc bas. Mais toujours est-il que la constitution des blocs était dans le but de le rendre encore plus compact.
Clémentine Touré, entraîneur de l'équipe nationale féminine de la Côte d'Ivoire. L'une des évolutions notables dans la performance des équipes, c'est le rôle central du gardien de but, selon Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but du Cameroun.
Si nous sommes si heureux de la compétition que nous voyons, c'est parce que nous avons désormais en Afrique, parce qu'il faut le dire, le reste du monde en plus pensait qu'en Afrique, on joue avec des singes dans les buts. Aujourd'hui, nos gardiens de but peuvent rivaliser avec les gardiens de but du monde entier.
Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but du Cameroun. Nous sommes à Abidjan et bien évidemment, il nous arrive souvent de parler louchi, l'argot ivoirien. Je vous invite à la découverte d'un mot goumen qui va au-delà des frontières ivoiriennes. Qu'est-ce que cela signifie? Notre correspondante Eki Abadou a promené son micro dans les rues d'Abidjan.
Le goumen qu'il y a eu là, même là, il dit, tu peux pas manger, tu bois l'eau là même, ça ressort. Même tu dors même, tu vois ça en film même. Et puis, ça donne des palpitations au cœur.
Quand tu as goumen là, hein, tu casses tous les moments, tu es toujours mélangé. Dans le goumen là, c'est un comportement en fait.
Et le goumen, ça veut quoi? C'est con, c'est ton foie. Ça revient au monde.
Goumen là, c'est faux, hein. Quand quelqu'un a, non, t'attends qu'est-ce qu'elle soit. Hein. Un moment, et puis bizarrement, ça tombe quoi. Hein. Tu sais, la mère était mourie. Hein. Donc elle est gros même.
Je suis France, je m'en fous. Maintenant, aujourd'hui, elle me boit. Tu vois, non. Elle me boit. Ça me fait mal. Wow. Tu vois, non.
La plupart du temps, ça arrive à partir de 23h. Ça commence par « Je suis désolé ». Si tu vois ça là, c'est mort. C'est que là, c'est bon. Quand ça finit comme ça, je dis, tu ne peux plus dormir. Souvent même matin, même, tu manges là même. C'est comme si tu n'as rien mouillé même. L'eau glacée, c'est chaud dans ta bouche.
Vous l'aurez compris, Goumé signifie simplement déception ou chagrin. C'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Yacouba Ouidraogo, Abidjan, VOA Afrique.
Merci bien Yacouba, c'était donc le journal de la CAN. Le monde aujourd'hui se poursuit au Sénégal. Le Parlement a entériné dans une grande confusion le projet de loi visant à repousser le scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février au 15 décembre de l'année en cours. Un vote qui plonge le pays dans l'inconnu et fait craindre une ébullition. Notre correspondant Wahani Johnson Nossambou fait le point de Dakar.
Macky Sall va donc rester au pouvoir pour un peu moins d'une année encore. Les députés de sa coalition, Benno Bokk-Yaakaar et ceux de Wallou Sénégal de Karim Wad, ont adopté hier le projet de loi validant le report de la présidentielle. Le scrutin aura finalement lieu le 15 décembre prochain. Un coup de massue pour l'opposition qui a tout tenté pour empêcher le vote. Pendant de longues minutes d'incertitude et après des débats houleux, ces élus se sont dressés contre, s'agrippant au perchoir et confisquant l'urne pour bloquer le processus. Mais ils ont été violemment évacués de l'hémicycle par les forces de l'ordre. Certains dénoncent, je cite, des violences exercées sur eux par des gendarmes lors de leur évacuation. Le vote a suscité l'indignation de l'opposition mais également de simples citoyens sénégalais. Députés et analystes dénoncent ce que beaucoup qualifient de coup d'État constitutionnel. Ce vote plonge le pays dans une grosse incertitude. Beaucoup craignent de nouvelles violences. Depuis l'annonce du report de la présidentielle samedi par le président Macky Sall, plusieurs manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays. L'opposition appelle à résister. Au même moment, elle annonce des recours pour invalider le vote de l'Assemblée nationale. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
Au Nigeria, 12 combattants anti-djihadistes ont été tués lors d'affrontements avec des gangs à l'extérieur du village de Fakai, près de la frontière avec le Niger. Des chefs de milice locales formés pour combattre les djihadistes affirment d'avoir tué dimanche dernier plus de 50 membres de bandes criminelles, connues sous le nom de bandits, lors de violents combats dans l'état de Sokoto, des chiffres qui n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Réuni à Brazzaville hier, le comité de haut niveau de l'Union africaine a appelé à la fin des ingérences extérieures dans la crise en Libye, pays déchiré par une guerre civile. Rosine Mounezero.
Cette réunion, la 9e depuis la création de ce comité de l'Union africaine présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, était organisée en prélude à une conférence de réconciliation interlibyenne prévue le 28 avril à Sirte. Les membres du comité ont réaffirmé leur soutien au processus politique mené par la Libye, qui a pour but de conduire à des élections générales devant permettre d'unifier le gouvernement. À l'ouverture des travaux, Sassou Nguesso a rappelé avoir toujours privilégié le dialogue inclusif interlibyen comme levier de réconciliation et préalable au processus électoral. Aucune initiative ne sera plus forte que celle qui viendra du cœur et de la raison des frères libyens eux-mêmes, a-t-il ajouté. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a souligné que la crise libyenne a trop duré et coûté trop cher à son peuple. Et là, selon lui, nourrit le terrorisme au Sahel et ses conséquences en termes de destruction politique et d'instabilité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Italie, le parquet a ouvert une enquête après le suicide d'un demandeur d'asile guinéen qui a passé des mois dans son centre de rétention. Nanit Talani.
Ousmane Sylla, 22 ans, s'est pendu dimanche dans un centre pour migrants près de Rome en Italie. « Si je meurs, je voudrais que mon corps soit renvoyé en Afrique », avait-il écrit en français sur le mur. Le procureur a ouvert une enquête sur une éventuelle incitation au suicide et a ordonné une autopsie. Ce décès a incité d'autres migrants présents dans le centre à mettre le feu à des matelas et à jeter des objets sur les agents. 14 personnes ont été arrêtées, dont certains originaires du Sénégal, de la Tunisie, du Niger et de la Gambie, d'après la police. Ricardo Madi, secrétaire général du parti de centre-gauche Europa, a décrit le centre comme un enfer où les migrants sont privés de leur liberté dans des conditions inhumaines et a demandé la fermeture des centres pour migrants. Le premier ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui a pris ses fonctions en octobre 2022, avait promis de bloquer les bateaux de migrants traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. En 2023, près de 158 000 personnes ont atteint les côtes italiennes, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux quelques 105 000 personnes accueillies en 2022.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait état hier de la création d'un comité indépendant chargé d'évaluer la neutralité de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens et son fonctionnement après les accusations visant plusieurs de ses employés. Michel Joseph.
Ce groupe d'évaluation sera mené par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en collaboration avec trois centres de recherche, l'Institut Raoul Wallenberg en Suède, l'Institut Michelsen en Norvège et l'Institut danois pour les droits humains. Il devra remettre à Antonio Guterres, d'ici fin mars, un rapport intermédiaire, puis d'ici fin avril, un rapport final qui devra notamment, si nécessaire, faire des recommandations. Le nouveau groupe n'est toutefois pas chargé d'enquêter sur les accusations contre les 12 employés de l'UNRWA, tâche dont est saisi le Bureau des services de contrôle interne de l'ONU. Israël a accusé 12 de ses 30 000 employés de l'agence onusienne d'implication dans l'attaque du 7 octobre. En réaction, une douzaine de pays donateurs, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, ont annoncé la suspension de leur financement à l'agence. Félicitations aux Nations Unies pour la formation de ce comité d'enquête, a commenté Israël Katz, chef de la diplomatie israélienne, qui assure que son pays soumettra toutes les preuves, soulignant les liens de l'UNRWA avec le terrorisme.
Quant au patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, il poursuit sa tournée au Moyen-Orient aujourd'hui pour tenter d'imposer une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas, qui s'apprête à entrer dans son cinquième mois. Le secrétaire d'État américain a entamé hier en Arabie Saoudite cette cinquième tournée régionale depuis le début des combats. Son périple doit le conduire ce mardi en Égypte et au Qatar, deux pays médiateurs aux côtés de Washington, avant de se rendre en Israël et en Cisjordanie. Occupé. Avant lui, le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'est entretenu hier avec des responsables israéliens et palestiniens dans l'espoir de favoriser une trêve, voire un règlement politique global. Les États-Unis ont mené hier une nouvelle frappe contre les Houthis au Yémen, visant deux drones de surface navale chargés d'explosifs, indique l'armée américaine sur fond d'embrasement régional lié à la guerre dans la bande de Gaza. Les forces américaines ont multiplié les opérations au Yémen et au large de ce pays en guerre, disant agir pour protéger la navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden des attaques des Houthis, lesquels affirment soutenir ainsi les Palestiniens de Gaza, assiégé et bombardé par Israël depuis près de 4 mois. Le roi Charles III est atteint d'un cancer découvert pendant une opération récente de la prostate, moins d'un an et demi après avoir succédé à sa mère Elisabeth II sur le trône britannique. L'annonce a provoqué un choc au Royaume-Uni. Le monarque de 75 ans a déclaré être très optimiste quant à son traitement contre une forme de cancer non précisée entamée hier et qu'il continuerait d'assurer certaines fonctions liées à son rôle de chef d'État de 15 pays, dont le Royaume-Uni. Il était déjà au repos après son opération de la prostate. Une violente tempête continue de menacer la Californie après avoir provoqué de dangereuses inondations dans le nord de l'État américain où les rafales ont été très violentes. Au moins 3 personnes ont été tuées dimanche à cause de chutes d'arbres d'après les autorités locales. Des trombes d'eau tombent sur le sud où il pleut sans discontinuer depuis plus de 24 heures. Près de 500 000 de foyers ont été privés d'électricité. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a proclamé l'état d'urgence d'urgence dans 8 des 58 comtés de l'État. En Colombie, un homme de 18 ans est décédé. Deux autres ont été hospitalisés en soins intensifs et une centaine de personnes sont en isolement en raison d'une infection respiratoire dans une école militaire de la capitale Bogota. Une épidémie d'infection respiratoire aiguë sévère, potentiellement due à la grippe, a été constatée à l'école militaire des cadets général José María Córdova, selon les autorités locales. 290 personnes ont été exposées à l'épidémie, confirmée par l'armée colombienne qui a fait état de mesures afin d'empêcher la propagation de la maladie. Le Chili observe ce mardi son deuxième et dernier jour de deuil national en mémoire des 123 victimes des incendies dévastateurs qui ont également fait des centaines de disparus et laissé des milliers de personnes sans abri dans les régions touristiques du centre et du sud du pays. Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné hier l'ouverture d'une enquête pour établir si Transparency International s'est rendu coupable de malversations en lien avec des fonds issus de la lutte anticorruption, ce que l'ONG nie fermement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Revenons d'emblée sur la crise au Sénégal. Le Parlement du pays a donné le feu vert au président Macky Sall pour qu'il reste au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur en repoussant l'élection présidentielle au 15 décembre de cette année. Samedi, le chef de l'État sénégalais a fait part du report du scrutin à la veille du début de la campagne électorale, arguant d'un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. L'opposition a déjà promis d'attaquer la loi devant les sept sages. Pour en parler, Abdourahman Dia a joint à New York le professeur Mamadou Diouf de Columbia University.
En fait, je ne suis pas surpris aussi dans le contexte dans lequel on se trouve depuis 12 ans avec l'avènement du président Macky Sall, dont à la fois le comportement et la démarche politique a toujours, dans une très large mesure, indiqué qu'il préférait des choix autoritaires aux choix qui sont des choix consensuels.
Le vote à l'Assemblée s'est déroulé de façon assez dramatique, avec des gendarmes qui sont intervenus pour faire sortir les députés de l'opposition. Comment est-ce que vous l'interprétez et qu'est-ce que cela augure pour les jours à venir?
Cela augure de résultats terribles, parce que faire passer une loi aussi importante en remettant en cause les principes de la Constitution, que l'armée, les forces armées ne peuvent pas entrer à l'Assemblée nationale. Donc remettre en cause ce principe, remettre en cause le principe aussi de la séparation des pouvoirs, ne fait que montrer la démarche autoritaire, anticonstitutionnelle, contre la légalité républicaine que le président Macky Sall a adoptée.
L'opposition qui, malgré tout, promet de saisir le Conseil constitutionnel, ce même Conseil constitutionnel qui dit le président est en conflit avec le Parlement.
C'est le président qui dit que le Parlement est en conflit avec le Conseil constitutionnel. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui établit la constitutionnalité au nom des lois. Donc ce que le président dit, qu'il y a un conflit entre les deux, ce conflit n'est pas possible pour une raison très simple, c'est que ces deux institutions dont le pouvoir est garanti par la séparation. Donc l'une des institutions ne peut pas intervenir dans les affaires de l'autre.
Comment appréciez-vous la posture de la CEDEAO aujourd'hui et même, disons, de la communauté internationale par rapport à la situation qui prévaut en ce moment au Sénégal?
Je veux dire, ce qui est dramatique, c'est que ces institutions, les institutions africaines, mais les institutions internationales ont toujours sacrifié la vérité, la transparence à ce mythe qui est le mythe de la stabilité. Et ce mythe de la stabilité a toujours c'est qu'on ne reconnaisse pas et qu'on ne clame pas la vérité.
Le professeur Mamadou Diouf de Columbia University dans la ville américaine de New York. En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans le territoire de Kwamout, dans la province du Maïdombé, ne cesse de se détériorer. Le conflit communautaire entre Teke et Yaka continue d'impacter négativement le quotidien des populations, alors que le gouvernement souhaite organiser des élections. Antoine Roger Bolamba a eu un entretien avec le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, venu ici à Washington.
Il y a encore des tueries, quelques actions par-ci, par-là. Il y a l'armée qui s'est déployée aux côtés de la police dans cette région et la situation est plutôt suivie de manière étroite. De même pour l'Est de la RDC où il y a un début du déploiement des troupes de la SADC, où il y a toujours une vigilance qui est observée par nos militaires pour assurer la défense du territoire national. Ici, il ne devrait pas y avoir de doute d'aucune manière sur la confiance que nous devons faire autour du président de la République, commandant suprême, pour amener la paix une fois pour toutes cette fois-ci dans cette partie du territoire national.
Il n'y a pas ce que vous parlez de l'Est de la République. Nous avons suivi parmi des dégâts, parmi des situations d'insécurité un peu partout. Nous avons suivi à Goma où un obus est tombé. Vous êtes au courant de
ça? Mais nous sommes au courant et nous suivons de près la situation parce que nous savons que tout ça, c'est la résultante d'une politique criminelle portée par le président rwandais. De toute évidence, nous sommes dans une optique où toutes les solutions sont à table, y compris militaires. Et dans les moments venus pour chaque action comme celle-là, il y aura une réponse proportionnée parce qu'il y a toujours des mécanismes qui sont mis en place pour nous assurer que nous assurons partout il faut la défense de notre territoire.
Pendant ce temps, les gens meurent à Kwamout. Pendant ce temps, les ADF sont en train de sévir, de s'aimer un peu de la désolation dans la
Mais
population.
Mais les ADF ne représentent plus la menace qu'ils étaient, en tout cas en termes de proportion qu'ils l'ont été à l'époque. Parce que vous savez que nous avons commencé des opérations conjointes avec l'armée ougandaise et qui continuent jusqu'à ces jours où, de manière régulière, il y a eu des frappes sur des cibles, des sites, notamment des formations de ZADF qui ont été détruits. Et vous savez fort malheureusement que les terroristes, que leur mode opératoire repose sur la terreur, pour utiliser les mots qu'il faut. Et cette terreur, ils peuvent s'en prendre à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Surtout lorsqu'ils se savent acculés, ils viennent poser des actes de représailles avec le piège des réseaux sociaux qu'ils essayent permanemment de grossir. Ici, il y a une volonté claire et affirmée et réitérée du président de la République de continuer à œuvrer pour mettre fin à toute forme de terreur et d'insécurité dans tous les coins de la RDC.
Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication et des médias, en visite ici dans la capitale américaine. Au Congo-Brazzaville, une ONG locale, le Centre d'action pour le développement, le CAD en un mot, a demandé dans une lettre ouverte aux éléments de la force publique de ne plus obéir aux ordres que donne la hiérarchie en violation des droits humains. Cette organisation est d'avis que la force publique est responsable de la situation critique des droits humains en République du Congo, d'où notre correspondant Arsène Séverin nous a envoyé ce reportage.
Dans cette lettre ouverte, le CAD demande d'entrer aux officiers de l'armée, de la police et de la gendarmerie de ne pas être des instruments de la terreur. Entre le respect de la légalité et de la hiérarchie, le bon soldat devait être du côté de la loi, dit la lettre. Pour Trésor Dilakende, le directeur exécutif du CAD, la force publique est en partie responsable de la situation critique des droits de l'homme au Congo.
Cette dégradation se manifeste de plusieurs façons. Usage excessif de la force, homicides illégaux, torture, arrestations arbitraires, violation du domicile. Dans cette lettre ouverte, nous invitons la force publique à privilégier le respect de la loi, à désobéir aux ordres illégaux de leur hiérarchie afin de préserver les droits humains et l'ordre social.
À Brazzaville, le commun des mortels estime que le fait de rencontrer seul un homme en uniforme est un grand risque à ne pas courir.
On voit déjà comment ils procèdent aux arrestations en ne respectant pas la dignité des hommes et aussi la violence dont ils font preuve ne rassure pas. Et on se dit qu'on n'a qu'à se débrouiller nous-mêmes, la police ne nous rassure plus.
Le même peut vous agresser, les mêmes peuvent vous facilement vous donner la mort, le même peut facilement vous voler, alors que hier, c'est loin de tout ceci. Donc en réalité, on leur a donné l'officialisation même de ce qu'ils étaient en train de faire dans le noir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne, plus un seul Congolais ne peut se sentir en sécurité, ne peut être content de rencontrer en uniforme dans la rue.
Mais pourtant, les autorités militaires s'emploient à établir l'ordre et la discipline dans les rangs. Récemment, à Pointe-Noire, le général Jean-François Ndengue, commandant des forces de la police, a interpellé des agents pris en flagrant délit.
Il est où ça? L'adjudant Futika, amenez-le ici. Coupable d'usurpation de titre et d'escroquerie au préjudice de plusieurs victimes. Brigadier chef Ndende Oboyo, respi, de l'unité d'intervention. Ils n'ont pas une vocation de police, mais ils seront traduits devant la justice. Moi, je vais vous déférer et prononcer la radiation de nos rangs. Vous n'avez aucune vocation. Avec des tels comportements déviants, comment voulez-vous que la population puisse nous faire confiance?
Trésor Nzila Kende espère que cette lettre ouverte attirera l'attention des responsables de la force publique en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme et le climat social au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Les membres de la diaspora rwandaise se sont réunis vendredi et samedi au National Harbor dans l'état du Maryland pour célébrer le Rwanda Day en compagnie du président Paul Kagame et d'autres amis du Rwanda. L'événement a offert une opportunité d'engager la diaspora dans le développement du pays et de faire le point sur les réalisations accomplies. Eric Manirakiza a recueilli quelques réactions parmi les participants. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma.
Quatre thèmes majeurs ont retenu l'attention des participants. Entreprise et carrière, entre la diaspora et le pays d'origine. Le Rwanda après 30 ans, le Rwanda dans le monde, prendre soin de notre santé et développement économique à travers le sport et le divertissement. Joshua Rudasigindoha, 20 ans, partage ses impressions et les points forts de cette journée.
Une chance, une opportunité pour montrer que j'aime mon pays. J'ai entendu qu'il faut être fier de ton pays et de te préparer pour toutes sortes de scénarios qui peuvent se passer. Il faut être prêt pour aider ton pays. Il faut être prêt pour défendre ton pays. Il faut être prêt pour aimer ton pays.
Jacques Rwirangira réside à Montréal et évoque un moment particulier.
Nous avons pu avoir une conversation avec le président. Certainement, on a d'abord écouté qu'est-ce qu'il avait à nous dire. Rien dans beaucoup de détails, mais globalement, parce que de là, on peut tout simplement sortir un plan pour l'avenir.
Léonce Massassé, originaire du Burundi et résident en Belgique, prend part au Rwanda Day depuis de nombreuses années.
Je suis burundais. Et ce que j'aime le plus, c'est effectivement comment les gens ont autour d'un leadership qui fait rassembler. Ça devrait servir à d'autres pays africains ou d'ailleurs.
Divine Uikirezi, qui habite à Montréal, met en avant sa fierté d'appartenir à la nation rwandaise.
Tu as marqué, c'est juste le voir, la fierté dans les yeux de chacun des Rwandais, des amis rwandais qui étaient présents. Tu voyais vraiment la fierté de leur pays, le bonheur dans leurs yeux d'être là.
Philippe Gassenera-Nchuti, résident également au Canada, a fait le déplacement pour promouvoir la créativité rwandaise.
Présentement, au Rwanda Day, je présente notre marque de vêtements, Kobe Collection, au niveau de la créativité rwandaise. Donc, dans le contexte d'habillement plus contrasté et qui dégage aussi notre image rwandaise, donc notre logo, il est représenté par Inyambo, donc la vache royale.
Plus de 6000 participants se sont rassemblés, tous animés par un idéal commun, celui de contribuer davantage au service du Rwanda et de le faire briller à l'échelle mondiale.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 6 février 2024. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine.